Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Édouard Rosset.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Point de mire sur Canal Académie qui rend aujourd'hui hommage à Jacob Kaplan. Le lundi 13 décembre 2004, dans la grande salle des séances, l'Académie des sciences morales et politiques organisait une cérémonie commémorative en hommage au grand rabbin Jacob Kaplan, élu à l'Académie le 24 mai 1967 et décédé le 5 décembre 1994. Après avoir salué la présence de nombreux invités et confrères, Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2004, Michel Albert, a prononcé une allocution introductive et passé la parole à Monsieur Alain Besançon, que nous allons écouter dans un instant. Se sont ensuite exprimés Monsieur Alain Goldman, grand rabbin du consistoire israélite de France, ainsi que Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur Jean Cluzel, que nous écouterons également dans le courant de cette émission. Mais nous écoutons pour commencer Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui, rappelant le génie extraordinaire de la conciliation dont était habité Jacob Kaplan, a évoqué l'une des plus hautes figures spirituelles de son siècle et à coup sûr l'une des plus équilibrées. Alain Besançon.
Je n'ai connu le grand rabbin Jacob Kaplan qu'en deux circonstances. L'une, qui ne dura qu'un instant, en compagnie de mon maître Raymond Aron, qui me le présenta. Je ne me souviens plus ni du lieu ni de la date, mais fort nettement du noble visage du grand rabbin. L'autre, plus longue, quand, ayant eu l'honneur de lui succéder à l'Académie des sciences morales et politiques, j'eus, en m'aidant du témoignage de ses œuvres et de ses fils en particulier, à rédiger ce qu'on appelle la notice, qui est toujours et plus que jamais, dans son cas, un éloge. J'ai plaint parfois certains de mes confrères qui devaient s'acquitter de cette tâche sur des prédécesseurs qui ne leur disaient vraiment rien. Pour moi, au contraire, ce fut un constant bonheur, je dirais même une édification. Je ne veux pas m'étendre sur ce point, mais je ne peux cacher qu'il se dégage de la vie et des œuvres d'une personne, de Jacob Kaplan, je n'ose pas dire une sainteté, qui serait plutôt un terme chrétien, mais une sagesse supérieure, exprimé par une foi parfaite, une proximité du Seigneur fortifiée par la prière, l'étude, l'exercice de la justice et de la raison, l'amour de la paix. Je le tiens à cet égard pour une des plus hautes figures spirituelles de son siècle et à coup sûr pour l'une des plus équilibrées. Il me semble qu'il y eut chez cet homme une simplicité fondamentale, vraiment biblique, fruit, je pense, d'une imitation à la fois naturelle et studieuse du Dieu un. C'est cette simplicité, qui peut se dire aussi unité de la personne, qui lui a permis d'accomplir les exploits fameux que je ne peux que rappeler ici. Pendant la guerre de 1914, le soldat Kaplan fit son devoir, comme tant de soldats français, dans un régiment de Bretons, sans doute plus rustique que lui, envers qui il se montra complètement solidaire. Quand on lui offrit un poste moins dangereux d'aumônier militaire, il le refusa pour rester avec ses camarades. Entre les deux guerres, il eut l'occasion de montrer, en plusieurs occasions, son chaleureux patriotisme, tout en évitant soigneusement qu'il ne dégénère dans un nationalisme toujours suspect d'idolâtrie. Il vit venir de loin l'horreur nazie et en dénonça, dès 1933, la barbarie et le blasphème. Le grand Kaplan se révéla à l'ouverture de la plus grande épreuve qu'a subi le peuple d'Israël depuis la chute du Temple. Je voudrais citer le sermon qu'il prêcha sur Abraham le 15 novembre 1940 en réponse aux honteux décrets de Vichy, où il conclut. Nous sommes fiers, je cite, d'être les fils d'Abraham, fiers de nous réclamer de sa race, fiers d'appartenir à sa religion. Nous ne renoncerons pas à notre qualité de juifs pour échapper aux rigueurs d'un statut qui, aux yeux du vulgaire seul, peut sembler déshonorant. Tel fut pendant toute la guerre un des thèmes constants de sa prédication. Soyez fiers d'être juifs. Israël n'abdique pas de son droit d'aînesse parmi les nations. Ayez confiance en le roi de l'univers qui fera éclater sa justice devant tous les peuples. Citez aussi la lettre qu'il adressa le 3 juillet 1941 à M. Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives. Après avoir, guillemets, conformément à la loi, fait sa déclaration de juif à la mairie de Cusset, allié, le fait rouge de cette lettre est dans la question suivante, je cite. « Qu'un païen ou un athée dénigre le judaïsme, il a tort, certes, mais il n'y a rien d'illogique dans cette façon de faire. Tandis que de la part d'un chrétien, une telle attitude n'apparaît-elle pas comme une inconséquence dans l'ordre de l'esprit, en même temps qu'une ingratitude ?» Ces textes sont certainement parmi les plus nobles, les plus nets et les plus risqués qu'on ait produits dans ces années de désespoir. Il faut remarquer qu'ils ne contiennent aucun mépris pour la tradition française de laquelle ils pensent que Vichy s'est scandaleusement écarté. Dans cette même lettre à Xavier Vallat, il énumère longuement des auteurs à ses yeux plus représentatifs de la France, Pascal, Fénelon, Bossuet et jusqu'à Léon Blois, Péguy et Renan. Il avait composé avant la guerre, avec ses auteurs et d'autres, une anthologie qu'il réédita ensuite sous le titre « Un enseignement de l'estime ». Chacun connaît l'affaire Finali qui projeta Jacob Kaplan, devenu grand rabbin de France, sur la scène mondiale. Deux enfants, dûment circoncis, avaient été baptisés par leur tutrice provisoire et cachés en Espagne. Affaire extrêmement délicate qui engageait un ordre religieux, le droit canonique, la République française, l'Espagne de Franco et une opinion publique très prompte à s'enflammer. Quand on suit les péripéties de cette affaire qui s'étendirent de 52 à 53, on ne peut qu'admirer la conduite de Jacob Kaplan. Elle unit à une fermeté, une intransigeance parfaite sur le fond, une intelligence politique consommée, une prudence dans l'action qui fut couronnée par le retour des enfants. Ce qui est remarquable, c'est l'appel à un certain nombre d'amis, clercs et laïcs, chrétiens ou non-chrétiens, qui mit devant leurs responsabilités et à qui il décida de faire confiance. Et, alors que les passions se déchaînaient, le choix constant des moyens les plus propres à maintenir la paix civile. Il considérait que les hommes pouvaient être mus par la raison et la justice et il pariait sur leur rectitude morale. Cette fois, il gagna. Ce ne fut pas son seul contact avec le monde chrétien. Au lendemain de la guerre, il participa à la très importante conférence de Zélisberg, où des gens d'église et de synagogue s'efforcèrent de déraciner la tenace ivraie du marcionisme qui revient à toutes les époques du christianisme et notamment sous des formes nouvelles dans la nôtre. Comme toujours, il ne se paya pas de mots ni ne se contenta de bonnes intentions, mais il demanda des dispositions précises. Il se joignit aux démarches de Jules Isaac, autre grande figure du judaïsme de cette génération, auprès du cardinal Béat et du Vatican. Il suivit le conseil de Vatican II, ses différentes actions et déclarations subséquentes du Saint-Siège, et il exprima, selon le cas, sa déception ou sa satisfaction. En accompagnant cet examen de conscience de l'Église catholique dans un esprit de paix, de mesure, mais vigilant et attentif au respect des frontières, on peut dire qu'il lui rendit à cette Église un éminent service tout autant qu'au peuple juif. Les dernières années du grand rabbin furent plus paisibles, mais non moins laborieuse. Il eut à organiser le doublement de la communauté juive, a veillé à réunir les deux moitiés séfarades et ashkénazes du judaïsme français. Il construisit un vaste groupe scolaire qui porte aujourd'hui son nom. Il fit face, avec sa dignité coutumière, aux honneurs plus que mérités qui pleuvaient sur lui et aux obligations sociales publiques qui en sont la rançon. Il fut, dans notre académie, élu en 1967, un membre très aimé. Et je regrette que notre confrère Chaunu ne soit pas là parce qu'il en parlait admirablement et même avec une sorte de tendresse. Il fut, dans chez nous, comme ailleurs, un foyer de sérénité et de paix. Jacob Kaplan mourut dans sa 100e année et, selon l'expression de la Bible, rassasié de jours. 10 ans ont passé depuis sa mort. 10 ans qui ont changé le paysage en Israël et en France. En Israël. Contrairement à beaucoup de rabbins de sa génération, qui étaient inquiets de la légitimité religieuse ou peu sûrs de la possibilité politique du projet sioniste, Jacob Kaplan ne voyait pas pourquoi il serait interdit aux Juifs de créer un foyer national sur une terre où le lait et le miel ne coulaient plus depuis longtemps, ni pourquoi il y aurait une contradiction entre leur qualité de citoyen et leur amour d'Israël. À ses yeux, il n'y avait pas d'opposition de principe entre Sion et Paris. Un trait constant de Jacob Kaplan était son génie extraordinaire de la conciliation et de la synthèse. Il arrivait sans effort à un point de vue supérieur où les contradictions avaient l'air de se résoudre toutes seules. Or, aujourd'hui, la terre de la promesse n'est plus telle qu'il se la figurait avant qu'elle ne fût fondée, ni ainsi qu'il l'avait parcourue pour sa joie de son vivant. Nous ne pouvons qu'imaginer les solutions qu'aurait préconisées le grand rabbin pour sortir des apories tragiques de leur présente. En France, Jacob Kaplan a vécu après la guerre une des plus heureuses époques du judaïsme français. On disait que l'antisémitisme avait disparu pour toujours. Israël inspirait une sympathie presque unanime et parfois de l'enthousiasme. Or, aujourd'hui, les Juifs de notre pays sont inquiets. Ils constatent des agressions. Ils se demandent s'ils jouissent de la protection à laquelle ils ont droit. Ils craignent qu'une sorte d'intifada s'installe insidieusement dans certaines zones. Et puis, ils chantent chez leurs compatriotes, non certes de l'antisémitisme, sauf dans quelques marges sans autorité morale, mais peut-être une sorte de désamour qui contraste avec l'amitié sincère qu'ils ont connue longtemps. Et puis le peuple juif en France n'est pas non plus le même qu'autrefois. Les grandes voix, celles de Raymond Aron, celles d'Emmanuel Lévinas, celle de Jacob Kaplan, se sont tues. Je voudrais que leur écho retentisse encore longtemps. Je vous remercie.
C'était Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, rendant hommage au grand rabbin Jacob Kaplan en grande salle des séances de l'Institut de France le lundi 13 décembre 2004. Après Alain Besançon, c'est M. Alain Goldman, grand rabbin du consistoire israélite de France, qui a retracé quelques épisodes marquants de la vie de Jacob Kaplan.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les académiciens, c'est avec une profonde émotion, teintée de reconnaissance et de fierté, que je prends la parole ce soir, dans ce cadre prestigieux et devant une assemblée aussi choisie. je tiens à exprimer une gratitude toute particulière à M. Jean Cluzel, votre secrétaire perpétuel, pour m'avoir associé à l'hommage que votre compagnie a souhaité rendre à celui qui a toujours ressenti comme un immense honneur d'en être membre. Selon la belle et quelque peu mélancolique expression des psaumes que le grand rabbin Kaplan se plaisait à citer, il disait « Bien vite, le fil est coupé. » Votre compagnie a tenu à prouver que cette fois-ci, le fil est resté intact. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 10 années se sont écoulées depuis le départ du grand rabbin Kaplan. Au terme d'une longue vie, tout entière dédiée au service de ses frères en religion et de ses frères en humanité. Il a siégé, comme cela vient d'être dit, parmi vous, plus d'un quart de siècle de 1967 à 1994, il avait succédé à Georges Duhamel, dont il avait fait un éloge brillant au cours d'une séance dont le souvenir reste gravé dans ma mémoire. L'action du grand rabbin Kaplan s'inscrit dans le milieu familial qu'il a vu naître et grandir. Dans sa formation à l'école rabbinique de la rue Vauquelin, à laquelle il vouait une tendresse particulière, dans son dévouement à la communauté juive, à laquelle il a consacré toute son existence, dans l'amour enfin de son pays, pour lequel il a été prêt à offrir sa vie dès l'âge de 19 ans, lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale. Je viens de mentionner sa famille, son épouse Fanny, bien sûr, cette grande dame que tous ont appréciée pour ses qualités de cœur, ses enfants, tous présents ici, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Quant à l'intensité de ses sentiments filiaux, une lettre adressée du front le 4 novembre 1918, peu de jours avant l'armistice, emporte un témoignage émouvant. Ceux qui ont eu le privilège d'être reçus dans son foyer ont gardé le souvenir de la chaleur communicative, je dirais de la gaieté, qui s'en dégageait. En dépit des nombreuses épreuves qu'il a traversées au cours de sa vie, Jacob Kaplan était d'un naturel gai, d'une humeur égale. Ni dans ses propos, ni sur son visage, il ne laissait jamais rien paraître des soucis et tracas liés à sa charge. Il me paraît juste de rendre publiquement hommage à cette grande belle famille si unie, témoignage vivant de ce que peut être un judaïsme authentique à travers ses rites et ses traditions. Il faut rappeler que Jacob Kaplan est né en 1895, rue des Écouffes, en plein cœur du Marais. Dès l'âge de 13 ans, il suivit les cours de la section préparatoire du séminaire israélite, avant d'intégrer la section supérieure, celle du séminaire proprement dit. 5 années après avoir obtenu le baccalauréat, il pouvait déjà aspirer à des postes rabbiniques de plus en plus prestigieux. C'était toutefois sans compter avec la déclaration de guerre d'août 1914. Comme vous l'avez fait remarquer, monsieur le secrétaire perpétuel, lors de la séance solennelle de rentrée du 15 novembre dernier, au cours de laquelle, pour honorer la grande figure de Geneviève de Galard, vous avez fait une si brillante illustration de l'exigence. Vous disiez, je vous cite, « D'un côté, le destin d'une personne, de l'autre, celui de millions d'êtres humains. » Votre observation convient admirablement à la personnalité de Jacob Kaplan. Il l'a amplement démontré dès le départ de sa carrière, car il dut interrompre ses études au séminaire pour rejoindre ses conscrits sur les champs de bataille. Jacob Kaplan était en effet un homme de devoir. Alors qu'il aurait pu aisément remplir les fonctions d'aumônier militaire, il a préféré, il nous l'a toujours raconté, il a préféré rester avec les hommes de troupe et prendre sa part au combat. Simple soldat de seconde classe, il connut durant 16 mois l'enfer de Verdun, les tranchées, les privations, les épreuves terribles des combattants. Sur les champs de bataille, il noua des liens très forts avec ses camarades du 411e régiment d'infanterie. Les appréciations élogieuses émises par ses supérieurs portent témoignage de son sens de l'autorité, de son courage, de son intrépidité à se porter en avant, ce qui lui valut des blessures et une citation à l'ordre de son régiment. Les annotations flatteuses portées sur son livret militaire surprennent, nous font un peu sourire lorsque l'on songe à cet homme si doux dans son comportement comme dans son langage. La fraternité des armes devait le marquer pour le restant de ses jours. Dans son désir de toujours répondre à tous ceux qui faisaient appel à son sens de la solidarité humaine, à son concours spirituel et moral, il n'a cessé de traduire en acte l'union sacrée, si chère aux combattants de la Grande Guerre. Mais s'il a été un combattant exemplaire, Jacob Kaplan n'en a pas moins privilégié l'arme de la parole et les solutions de paix. À lui qui appartenait à la dynastie des prêtres, issu d'Aaron le grand prêtre, frère de Moïse le législateur, s'applique à merveille cette sentence talmudique bien connue. Soyez des disciples d'Aaron, aimant la paix, recherchant la paix, aimant les hommes pour les rapprocher de la Torah. Tous ces visiteurs, qu'il s'agisse du simple fidèle de sa communauté ou d'un grand de ce monde, il les recevait avec le même sourire, avec la même disponibilité. À chacun, il dispensait le conseil ou l'avis sollicité, il accordait l'aide morale ou pécuniaire demandée. Jacob Kaplan avait le don de communiquer à ses interlocuteurs le message de la foi juive et la parole des prophètes d'Israël. C'est ainsi notamment qu'il réussira, par son sens de la persuasion, il réussira en 1953, au terme de longues années d'efforts, à faire restituer les enfants finalis aux membres de leur famille. Vous êtes nombreux sans nul doute, et on vient de le rappeler, à vous souvenir de cette si douloureuse affaire qui a enflammé les passions dans les années d'après-guerre. Une affaire qui concernait deux enfants juifs, circoncis, que leurs parents avaient, avant leur déportation, confiés à une habitante de Grenoble qui les avait fait baptiser et qui refusait de les rendre à leurs oncles et tantes au lendemain de la guerre. Jacob Kaplan avait pu craindre un instant que ce douloureux épisode ne compromette l'harmonie des relations judéo-chrétiennes en faveur desquelles il avait tant œuvré. On sait en effet la part prépondérante qu'il avait prise en 1947 aux côtés de Jules Isaac pour parvenir à la fameuse déclaration de Zelisberg qui allait inspirer l'action des amitiés judéo-chrétiennes pour toutes les années à venir, ouvrant ainsi la voie à Vatican II et à la réconciliation définitive de l'Église et de la synagogue. Justice et vérité. N'était-ce pas là les idéaux qu'avait poursuivis le troisième de nos patriarches, Jacob, dont le grand rabbin portait si dignement le nom? Au patriarche qui avait mené le dur combat relaté dans la Bible, l'ange qu'il venait d'affronter avait affirmé « Tu as lutté contre des puissances célestes et terrestres et tu l'as emporté. Ces mots pourraient s'appliquer à Jacob Kaplan, qui, en juillet 1941, avait osé écrire à Xavier Vallat, commissaire aux affaires juives de Vichy, combien il était fier d'avoir eu à déclarer à la mairie de Cussé dans l'Allier que lui-même, sa femme et ses 5 enfants étaient juifs, démontrant ainsi, pour reprendre le célèbre mot de Goethe, être un homme, c'est être un lutteur. Oui, Monsieur le Président, fierté et courage, le grand rabbin en a fait preuve tout au long de sa vie. Même s'il n'a pas toujours été compris, il a toujours su faire front avec hauteur de vue et dignité. Chaque fois que cela lui semblait nécessaire, il s'est engagé avec détermination, par la plume, par la parole, par l'action. Aucune cause humanitaire ne le laissait indifférent. Il se voulait un grand Français et un grand Juif. Pour lui, servir Dieu, c'était servir les hommes, et servir les hommes, c'était servir Dieu. Rien ne pouvait le distraire de cette mission. Il n'est guère de jour où je ne pense à lui. Et face aux problèmes qui assaillent notre communauté et notre société, il m'arrive plus d'une fois de me demander « Que ferait-il ? Que dirait-il ? » Je terminerai cet hommage en citant les mots qu'il prononça lors d'un dîner organisé en son honneur le 7 novembre 1985 à l'occasion de son 90e anniversaire. Parlant des épreuves qu'il avait traversées et surmontées, il s'est référé au verset bien connu des psaumes, disant « Mes vœux de servir l'Éternel, je m'en acquitterai devant tout son peuple. » Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir permis d'évoquer ici, si brièvement hélas, la mémoire du grand rabbin Jacob Kaplan. Puisse son exemple et son souvenir continuer d'inspirer nos actions.
Hommage rendu au rabbin Jacob Kaplan, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, disparu le 5 décembre 1994. Hommage rendu par le grand rabbin du consistoire israélite de France, monsieur Alain Goldman. S'est ensuite exprimé, toujours en hommage à Jacob Kaplan, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques en 2004, monsieur Jean Cluzel, qui a évoqué le confrère. Ce confrère siégea 27 ans à l'Académie et auquel fut consacré un livre du centenaire, publié en 1997 et contenant les témoignages de plusieurs académiciens. Jean Cluzel.
Le nom du grand rabbin était prédestiné. Kaplan, c'est-à-dire chapelain, c'est-à-dire prêtre, c'est-à-dire descendant d'Aaron, le grand prêtre, le frère de Moïse. Et comment lui rendre plus sincère hommage qu'en méditant sur les témoignages rassemblés dans le livre du centenaire paru en 1997. Cet ouvrage s'ouvre du reste sur une phrase de M. Jacques Chirac, président de la République française. Son souvenir, écrit-il, vit à jamais dans mon esprit et dans mon cœur, et chacun sait les liens de profonde amitié qui unissaient M. Jacques Chirac et le grand rabbin Jacob Kaplan. Ce livre, publié sous la direction de M. Francis Kaplan, M. Maurice Riben Ayoun et du grand rabbin René Samuel Sira, comprend les témoignages de 4 de nos confrères. Henri Amourou, un homme de discrétion et de courage, dit-il. Pierre Chaunu, dont vous avez parlé tout à l'heure, Alain Besançon, un homme bon, absolument, totalement, simplement bon. André Damien, un homme d'ouverture, dans le respect des principes dont il était le gardien. Édouard Bonnefous, un indispensable trait d'union au sein de notre société. Et pour parfaire le volume, suivent 11 notices qui permettent de mieux connaître les centres d'intérêt du grand rabbin. Deux confrères du reste figurent dans cette seconde liste, Roger Arnaldez, Réflexion sur le message de Philon d'Alexandrie, Jean Humbert, Les Juifs et le pouvoir carolingien. Nombreux sont les témoins qui, dans ce livre, ont ouvert leurs propos par la relation de l'accueil si bienveillant qu'ils reçurent au numéro 1 de la rue Andrieux. J'eus, pour ce qui me concerne, le bonheur, l'honneur, devrais-je dire, d'être reçu plusieurs fois par le grand rabbin Jacob Kaplan. C'était en 1988, puis ce fut en 1991. Et comme ces visites se plaçaient dans le cadre d'une candidature à l'Académie, par conséquent visite protocolaire, l'accueil eût pu être quelque peu réservé, mais il n'en fut rien. Car le grand rabbin savait être tout à tous et ne faisait aucune distinction entre ceux qui, nombreux, de toutes conditions, de toute confession, frappaient à sa porte. Il sut très simplement me mettre à l'aise, me parlant, en raison de mes origines bourbonnaises, de l'accueil compréhensif qu'il avait reçu des paysans des environs de Vichy, lorsque, avec les siens, il vivait dans cette ville. En effet, en 1941, nous trouvions à Vichy, lui, parce qu'il remplissait son devoir à l'égard de sa communauté, moi, parce que j'étais élève au lycée. Si nous ne nous sommes pas rencontrés alors, je savais par le père Dillard, jésuite, et par les cahiers de témoignages chrétiens, créés sous la résistance par le père Chaillet, l'affreuse réalité de la persécution organisée contre les Juifs par le gouvernement siégeant à Vichy. Nous avions alors respectueusement et avec admiration salué la lettre que le grand rabbin Kaplan avait adressée à Xavier Vallard, on l'a rappelé tout à l'heure, j'insisterai pas, sinon pour rappeler la dernière phrase de cette lettre, « Appartenir au judaïsme était pour moi un grand honneur. J'ai été heureux de cette occasion d'en faire la déclaration officielle. » Puis, à la synagogue de Vichy, il allait clamer son indignation, mais aussi se réclamer de sa foi dans ces termes. « Nous ne renoncerons pas à notre qualité de juif pour échapper aux rigueurs d'un statut qui, aux yeux du vulgaire seul, est déshonorant. Il ne l'est jamais pour celui qui en est la victime. Nous serons le roc contre lequel, une fois de plus, viendra se briser l'iniquité. Une voix, lisons-nous dans la Bible, crie au prophète, « Sentinelle, où en est le jour? Qu'en est-il de la nuit ?» Et le prophète de répondre, « Le jour vient, et la nuit vient aussi. » Jusqu'à sa dernière heure, le grand rabbin est demeuré en position de sentinelle et toujours présent lorsqu'il savait qu'au cours d'une réunion allait être évoqué le soulèvement du ghetto de Varsovie, c'était le 19 avril 1943. Et à ce sujet, il avait coutume de dire que pour lui, ce fut l'un des grands moments de notre histoire, ô combien tragique. Ce jour-là, les Juifs dirent non aux bourreaux de leur peuple et se dressèrent contre eux. Pour répondre à cette tuerie organisée dans le cadre de la guerre d'extermination des Juifs, la Shoah de sinistre et abominable mémoire, la voix de Jacob Kaplan s'est toujours élevée en résonance avec les prises de position d'un cardinal Saliège, ou encore ces protestants du Chambon-sur-Lignon sauvant de nombreux enfants juifs. Il s'écriait alors, Israël, étant le premier à subir les assauts de la barbarie, c'est auprès de lui que doivent se trouver les défenseurs des valeurs spirituelles de notre temps. La Shoah et la création de l'État d'Israël sont les deux événements antinomiques du destin du peuple juif au XXe siècle. Il disait encore, la Shoah, ce génocide de 6 millions de Juifs qui s'est produit en Europe, au centre de l'Europe, après 2000 ans d'enseignement chrétien. C'était, selon l'expression même du grand rabbin, quelque chose d'affolant. La politique antisémite l'était déjà. Heureusement, chez lui, l'espérance demeurait vive, présente, communicative. Pour preuve, il suffit de citer un autre extrait de sa lettre à Xavier Vallin. « Le jour où la raison reprendra ses droits, écrivait-il, et elle les reprendra sans aucun doute dans le pays de Descartes et de Bergson, l'antisémitisme perdra les siens. » Bergson. Il nous faut aussi en ce jour faire mémoire du nom de celui qui fut membre de notre Académie de 1901 à 1941. Bergson, philosophe de confession juive, peut être lui aussi considéré comme un lien entre Israël et la chrétienté, même s'il a choisi, et parce qu'il a choisi, de mourir fidèle aux siens. À Vichy, excusez-moi d'y revenir, le 12 janvier 1941, quelques jours seulement après la mort du philosophe, le père d'Hilaire allait lui consacrer une conférence. De ce jésuite, Maurice Schumann devait dire à la radio de Londres que c'était le seul homme courageux dont la voix pouvait s'élever à Vichy, tout au moins, jusqu'au printemps de 1943. Voici quelques phrases échappées à la vigilance de la censure, dont la griffe marque l'exemplaire de cette conférence en ma possession. Contre le positivisme, contre le matérialisme qui se débattait dans des questions insolubles, d'un coup, grâce aux intuitions du philosophe, le débat fut approfondi et les découvertes spirituelles commencèrent contre ce faux idéalisme. Contre l'agnosticisme de la libre pensée qui refusait de poser les problèmes vitaux, les problèmes essentiels. Et Bergson nous fit redécouvrir et la liberté de l'esprit et l'immortalité de l'âme. Le père d'Hilaire et Jacob Kaplan furent exemplaires de la vitalité spirituelle qui s'exprimait à Vichy par la bouche de ces deux prophètes. L'un et l'autre se retrouvaient dans la grande unité de la foi. Le jésuite qui allait mourir à Dachau en janvier 1945 et le futur grand rabbin de France. En puisant, Monsieur le Président, dans les archives de notre Académie, on peut retrouver les échos de ce dialogue ébauché à Vichy. Et tout particulièrement ces phrases qui explique la conception de l'œcuménisme telle que le concevait le grand rabbin Kaplan. « Lorsque je parle de rapprochement, écrivait-il, il ne s'agit pas d'une fusion des religions. Il s'agit, chacun gardant sa religion particulière, de travailler ensemble. Il faut que les religions s'entendent et sympathisent. Nous pouvons très facilement, nous juifs, sympathiser. » Parce qu'aux yeux du judaïsme, la religion chrétienne comme la religion musulmane ont une raison d'être, elles ont une mission divine. Il ne s'agit ni de fusion, ni de syncrétisme, et nous pouvons travailler en restant fidèles, chacun à sa religion. Dans ce qu'on a appelé l'affaire Finali, qui vient d'être évoquée à l'instant, le grand rabbin allait donner un autre exemple de sa fermeté spirituelle. Et on a peine à imaginer de nos jours une telle situation qui, selon notre confrère, le bâtonnier André Damien, fut surtout, je le cite, « l'occasion de marquer un redressement juridique et doctrinal, mais aussi d'outrer la position de l'Église catholique jusqu'à l'inimaginable ». Le rôle du grand rabbin Kaplan a dans cette affaire été fondamental. Joignant à une inébranlable fermeté, une volonté de conciliation et de dialogue tout aussi admirable, il a réussi à apporter une solution à cette douloureuse affaire et en même temps à rassembler autour de sa personne et de sa doctrine la communauté juive tout entière. Comme il l'a écrit, Jacob Kaplan, l'enseignement de l'estime a pris le pas sur l'enseignement du mépris. Il est vrai que le grand rabbin faisait partie de ceux qui avaient aidé à la résurrection juive au lendemain de la tourmente, parce qu'il avait compris que le judaïsme était tout à la fois nation et spiritualité. Il apparaît aussi, et peut-être surtout, comme celui qui a permis d'amorcer la grande réconciliation entre juifs et chrétiens, comme on vient de l'indiquer à l'instant. Cette idée venait de loin chez lui, en effet, lors de son rabbinat à Mulhouse, de 1922 à 1928. Il avait pris contact avec le groupe des amis de Charles Péguy, groupe qui a largement contribué au changement de mentalité de la part des chrétiens à l'égard des juifs. Plus tard, le grand rabbin a participé aux activités de l'Union civique des croyants, où se rencontraient juifs et chrétiens afin de mieux se connaître. Et c'est pourquoi, le 7 décembre 1994, 2 jours seulement après la mort de notre confrère, le cardinal Lustiger pouvait mettre en pleine lumière le charisme d'homme de dialogue que fut Jacob Kaplan. Je cite le cardinal. C'était pour lui comme une impérieuse nécessité intérieure à laquelle il ne s'est jamais dérobé malgré les obstacles rencontrés en homme de foi et en homme de prière qu'il était. Avec une perspicacité jamais prise en défaut, il s'est toujours interrogé sur ce qu'il appelait les grandes tâches communes et qui étaient pour lui celles de la civilisation. Elles ne manquent pas à notre époque où les valeurs judéo-chrétiennes sont remises en cause avec toutes les dénégations qui en résultent. Nous devons, quant à nous, demeurer proches du grand rabbin, l'un de nos maîtres parmi les plus écoutés et les plus respectés, en ayant comme première exigence de continuer à veiller à la place occupée par la spiritualité de notre société. Et par conséquent, de ne pas admettre que cette place puisse être reniée, et par conséquent, de ne jamais transiger avec le devoir de tolérance. Et enfin, de ne jamais accepter quelque atteinte que ce soit aux valeurs de notre civilisation. Car les forces nihilistes poursuivent toujours leurs actions destructrices. Elles sont, hélas, dans la société française d'aujourd'hui, présentes à chaque instant. Prenant la forme les plus attrayantes pour des millions et des millions de fidèles du petit écran qu'elles affolent et séduisent. À l'exemple du grand rabbin Jacob Kaplan, nous ne pouvons accepter l'avilissement de notre société. Les croyants dans notre pays sont devenus en quelques décennies minoritaires. Il leur faut, et si vous me le permettez, il nous faut, dans ce cadre laïque de notre société auquel nous tenons, il nous faut faire réfléchir nos concitoyens aux enjeux humanistes des temps actuels, ce qui demande d'abord à chacun de nous de l'honnêteté morale et de l'honnêteté intellectuelle. Mais n'est-ce pas en employant ces mots revenir à l'exemple de vie que nous a donné le grand rabbin, celui qui nous recevait rue Andrieux dans son grand salon, entouré de sa collection de lampes juives, dans cette pièce où la vie familiale palpitait, où le souvenir de son épouse Fanny était si respectueusement conservé vivant. Elle qui fut sa compagne, sa collaboratrice, elle dont l'engagement social fut sans faille, comme le prouvent, parmi d'autres, les 3 maisons qu'elle fit en Israël construire pour les enfants francophones. Le grand rabbin Jacob Kaplan, en traversant le XXe siècle, fut l'un des pionniers de la lutte non seulement pour les droits de l'homme, mais pour, comme le précisait récemment le père Pierre Sérac, le droit d'être des hommes. Il a incarné l'un des termes du dialogue, celui de la modération et de la conciliation authentique, tout en étant respectueux d'autrui, comme son fils, que je viens de citer, Francis Kaplan, devait le rappeler. Homme de tolérance, parce qu'homme de paix, assuré de ses convictions, mais ouvert à ceux qui ne les partageaient pas. Des hommes tels que lui sont bien les seuls par qui puisse authentiquement exister et se développer le dialogue. Oui, il fut l'un des prophètes de notre temps, de ceux qui, comme le rappelait Péguy, ont le charbon ardent sur les lèvres. Dans les ténèbres du siècle passé, il s'est élevé comme une flamme haute et droite au milieu des périodes d'abjection que l'Europe a connues. Sa foi, ses idées, ses convictions constituent pour nous un patrimoine spirituel qu'il nous revient de conserver avec respect, mais dont nous avons aussi à nous inspirer. Car s'il fut un sage et un juste durant sa vie terrestre, son message n'a pas disparu avec son enveloppe charnelle. Il nous est toujours présent, et cette présence nous engage à nourrir et nos réflexions et nos actions des enseignements et des engagements de cette vie exemplaire. En cet après-midi, en cette grande salle de séance où il aimait venir, c'est ce que nous avons voulu ensemble, avec simplicité, mais avec fermeté, solennellement et respectueusement affirmer.
C'était Jean Cluzel, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques en 2004, rendant hommage, comme Alain Goldman, grand rabbin du consistoire israélite de France, et auparavant Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, hommage rendu donc au rabbin Jacob Kaplan le lundi 13 décembre 2004 en grande salle des séances de l'Institut de France, cérémonie commémorative en hommage à cet académicien Jacob Kaplan, je vous rappelle, élu à l'Académie le 24 mai 1967 et décédé le 5 décembre 1994.